Voilà, merci Nadine. Donc, je vais passer la parole à Bernard Luminet. Le titre est « Se satisfaire du bien-dire ».
Bon, je ne sais pas si je vais vous satisfaire. J'ai eu moi-même beaucoup de mal avec cette chose. Vous aurez sans doute remarqué, comme moi, qu'on convoque aujourd'hui de plus en plus souvent l'éthique. Et c'est la plupart du temps, en fait, pour poser des limites aux mésusages qu'on pourrait faire des avancées de la science. Alors on fait des comités. Et l'éthique convoquée est censée répondre à ce qui pourrait être bien pour notre espèce et pour le monde dans lequel elle vit. Et sans doute pas anodin que l'on s'en remette à des comités. C'est des comités qui ont une fonction d'expertise, en fait. Je crois que cette éthique à laquelle on fait appel prend, en fait, la place laissée vacante de la morale et de la raison que ni la religion ni le discours du maître ne réussissent plus guère à faire entendre. Alors, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes qui participent à ces fameux comités d'éthique.
Il y en a.
Personnellement, je ne crois pas que ce soit vraiment leur place. Tout ce que l'on constate, c'est que certains sont tentés de participer au bavardage médiatique et qui ne reculent pas à donner leur point de vue sur telle ou telle question de société, en y engageant, peut-être sans le vouloir, mais en y engageant ainsi la psychanalyse. Alors, ça donne lieu à une cacophonie parce que les positions divergent radicalement, bien sûr. Rien n'est plus facile que de faire dire à Freud et encore plus à Lacan des choses totalement opposées. Donc je crois que la psychanalyse n'a rien à gagner à se plier à cet appel à l'éthique. Je remarque que si Lacan s'est intéressé à l'éthique au point d'y consacrer toute une année de son séminaire en 1960, et vous l'aurez remarqué d'y revenir 10 ans plus tard, dans son séminaire encore. S'il s'est intéressé à l'éthique, ce n'était pas pour faire rentrer la psychanalyse dans le cadre de l'éthique, mais plutôt, comme il le dit lui-même, et Nadine l'a souligné, plutôt pour mettre l'éthique au pas de la psychanalyse. Et je ne crois pas que cela ait été dit pour nous inciter à participer à ce bavardage éthique avec lequel notre société se rassure contre ses propres débordements. Mettre l'éthique au pas de la psychanalyse, c'est au prix en tout cas de devoir la réviser. Réviser l'éthique d'Aristote, par exemple, en critiquant son concept de souverain bien. Freud avait commencé par y adhérer d'une certaine façon, parce que quand il énonce ces deux principes fondamentaux, le principe du plaisir et le principe de réalité, eh bien, il collait encore parfaitement à l'éthique d'Aristote, parce que le principe de réalité est une forme à peine déguisée du souverain bien. Mais vous savez que Freud a été amené lui-même à revoir sa position, c'est-à-dire qu'il a reformulé ces deux principes, un texte tout à fait intéressant. Et puis surtout, en analysant le malaise dans la civilisation. Il y a malaise dans la civilisation notamment parce que, comme le dit Freud, notre souverain bien n'est absolument pas inscrit dans son programme, dans le programme de la civilisation. Lorsque Lacan s'intéresse à l'éthique, c'est pour la détacher de la morale. Le séminaire sur l'éthique commence comme ça. Il remarque qu'au départ, l'expérience analytique est marquée par les problèmes moraux engendrés par l'univers morbide de la faute, auquel le psychanalyste est confronté lorsqu'il écoute ceux qu'une culpabilité tourmente. Et là où l'éthique de la psychanalyse se sépare de la morale, c'est que l'analyse permet de mesurer le pouvoir attractif de la faute et de mesurer que cette faute ne peut se concevoir que dans sa relation au désir. Donc ce désir, l'éthique de la psychanalyse nous conduit à le soutenir, ce qui ne va pas du tout dans le sens de soulager le sujet désirant de la dette que ce désir suppose. C'est pourquoi la psychanalyse ne vise pas à l'affranchissement naturaliste du désir qui soulagerait la faute. Lacan écrit ça, l'affranchissement naturaliste du désir a échoué. Car l'homme du plaisir n'est qu'un rêve qui ne tient pas compte de la soumission que cette position du plaisir à tout prix suppose à l'impératif de jouissance du surmoi. Distinguer morale et éthique n'est pas évident. D'autant qu'aujourd'hui, on parle facilement d'éthique pour ne pas invoquer la morale. Il faut dire qu'étymologiquement, ces deux mots désignent exactement la même chose. À ceci près que la morale vient du latin, mos moris, qui désigne la coutume, alors que l'éthique vient du grec ethos, qui dit la même chose, c'est la coutume. Donc c'est pas tellement l'étymologie non plus qui peut les distinguer, par contre, on peut les distinguer assez clairement du point de vue de la psychanalyse, et pour ça il suffit de se référer au surmoi. Le surmoi est à l'origine de la morale, alors que l'éthique du désir pousserait plutôt à ne pas céder aux impératifs du surmoi. On voit aussitôt que la voie éthique de la psychanalyse, que ce soit du côté de l'analyste ou du côté de l'analysant, la voie éthique de la psychanalyse doit prendre ses distances avec toute morale. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. J'en veux pour preuve ce que j'entendais récemment d'un collègue qui me confiait le dégoût, voire l'horreur, que lui inspirait la conduite perverse d'un de ses patients, résolument orienté par sa recherche de jouissance au mépris du risque qu'il faisait courir à ses partenaires. C'était dans les tout premiers entretiens. Ce collègue me disait, se posait la question, fallait-il ne rien dire et laisser faire? Il y avait certainement quelque chose à dire. Mais dans un cas pareil, il ne faut pas que ce soit la morale de l'analyste qui lui dicte la position à tenir, et ça coince. L'éthique de la psychanalyse implique que l'analyste sache repérer la position dans laquelle le discours de l'analysant le place. Et ce n'est que cette logique qui peut l'orienter dans son acte. C'est ce que j'ai répondu à ce collègue. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il s'agit de repérer la logique de cette place et d'en jouer le jeu. C'est une indication de ce style que Lacan nous donne dans RSI, quand il dit « J'indique qu'il n'y a d'autre éthique que de jouer le jeu selon la structure d'un discours. » L'éthique de la psychanalyse est donc essentiellement affaire de discours, et c'est la conclusion à laquelle on arrive quand on parcourt tout ce que Lacan a pu dire à propos d'éthique dans son enseignement. Donc repartons du début. Dans son séminaire consacré à l'éthique en 60, il avait déjà pris ses distances par rapport à Aristote et par rapport à Freud aussi. qui avait eu besoin de construire le mythe de Totem et Tabou pour justifier les origines de la morale. Lacan avait accentué que l'origine du surmoi pouvait se passer de cette mythologie, qu'il suffisait de considérer que le surmoi s'origine de l'inscription du sujet dans le langage. Et il répondait à la mythologie freudienne de Totem et Tabou par une autre mythologie, celle de Das Ding, qu'il est allé chercher dans Freud, mais à laquelle il a donné une portée plus structuraliste. Das Ding, c'est l'altérité absolue du sujet, c'est cet au-dehors primordial qui ne rentrera jamais dans la représentation signifiante, et qui fait que le sujet ne se satisfera jamais que de substituts signifiants. Das Ding désigne cette chose réelle qui reste radicalement hors d'atteinte du monde de la représentation, hors du signifiant. En même temps, il est essentiel d'en poser l'existence pour justifier la validité de l'univers signifiant. Et Lacan vient même à revisiter le mythe freudien le plus essentiel, celui de l'Oedipe, en le réduisant à une nécessité logique, celle de régler la distance du sujet à Das Ding, pour autant que cette distance est la condition de la parole. C'est fort, ça, comme phrase. Revisiter l'éthique d'Aristote, c'est aussi revoir l'idée du souverain bien, en soulignant que ça reste une affaire purement politique. C'est le pouvoir qui décrète ce que doit être le souverain bien pour la cité. L'affaire Antigone contre Créon le démontre largement. Les lois du ciel, entendez les lois du désir, ne sont pas les lois qui maintiennent l'ordre dans la cité. Il s'en déduit un principe éthique inédit, ne pas céder sur son désir. Alors, en discutant avec Nadine pour préparer cette soirée, et en discutant notamment sur la proposition qu'elle nous fait d'interroger l'incidence de l'éthique de l'analyse sur la vie, aussitôt m'est venu le cas épineux d'Antigone, dont la tragédie occupe une place importante dans le séminaire sur l'éthique. Apparemment, Antigone ne cède pas sur son désir, mais c'est un peu paradoxal parce qu'elle le paye de sa vie en choisissant la mort. Je vous livre ça comme ça, je ne suis pas certain de pouvoir résoudre cette aporie. Simplement, je me suis dit qu'il ne faut pas oublier qu'Antigone n'a jamais vécu. Ce n'est qu'une figure de la tragédie grecque, destinée à illustrer la division d'un sujet entre son désir et son destin. Il faut dire que le poids du destin est lourd dans la lignée des Labdacides. Vous savez que la malédiction qui touche la famille et le châtiment infligé à la descendance de Laios, qui n'a pas payé pour son désir en abusant du jeune Chrysippe. Il s'ensuit une série de catastrophes, dont le parricide et l'inceste pour Oedipe, la querelle fratricide pour ses fils. Et c'est tout ça qu'Antigone doit traiter avec son choix admirable de fidélité. Pourtant, cette fidélité ne fait que l'inscrire davantage dans la malédiction. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ainsi, elle cède à la malédiction ? De toute façon, je ne crois pas que Lacan ait voulu nous proposer Antigone comme modèle pour une éthique de vie. Je remarque d'ailleurs que dans le long compte-rendu de ce séminaire qu'on a retrouvé écrit de sa main sans doute dans les années 60 et qui a été publié dans un numéro d'Ornicar, je suis allé fouiller là parce que j'avais du mal avec un petit schéma qui est dans le... qui est dans ce séminaire. Si ça vous intéresse dans le débat, je pourrais vous le montrer. Un petit schéma qui essaye, où Lacan essaye d'écrire le principe de plaisir, le principe de réalité, avec le sujet, l'objet, etc. Et il y a des chiasmes, il y a des trucs comme ça. Donc ce schéma me tracassait un peu, et en voyant dans ce compte-rendu du séminaire, Lacan donne une autre version du schéma, qui est encore plus complexe. Mais enfin, ce qui m'a intéressé, c'est que dans ce long compte-rendu, il n'y a pas une ligne sur Antigone. Retenons sur toute cette tragédie la malédiction exceptionnelle qui touche la descendance de celui qui n'a pas payé le prix de l'accès à son désir. Ceci m'amène à mentionner le renversement complet de perspective auquel Lacan nous conduit à la toute fin de son séminaire, c'est dans la dernière leçon, quand, partant de la notion du bien et du service des biens, il en arrive à dire « Il n'y a pas d'autre bien que ce qui peut servir à payer le prix pour l'accès au désir. » C'est intéressant, parce que ça fait émerger une éthique de la dépense, qu'on pourrait opposer au principe de l'économie et de l'épargne qui concerne plutôt la jouissance. Voilà donc où on en est avec l'éthique de la psychanalyse en 1960. 12 ans plus tard, 1972, en guise d'ouverture de son séminaire encore, Lacan rappelle son refus de publier son séminaire sur l'éthique, pour des raisons qui touchaient d'ailleurs au mouvement psychanalytique, parce qu'il ne voulait pas faire de cadeau aux collègues qui étaient en train d'œuvrer à cette époque pour le faire exclure de l'IPA. Tant il avoue qu'il aurait aimé le réécrire. Et je crois que le début du séminaire encore, avec une longue référence à Aristote, peut être considéré comme une réécriture de l'éthique. Ce qui a changé, tout le monde le sait, j'enfonce une porte ouverte, c'est que Lacan a modifié son point de vue sur le signifiant. Il n'y a plus d'un côté la jouissance et de l'autre le signifiant. Le principe de plaisir n'a pas d'autre moyen que l'usage du signifiant. Donc, il se satisfait du blablabla. Du coup, le domaine de l'éthique se circonscrit à notre façon d'habiter le langage. Se profile donc la voie éthique de la psychanalyse comme exigence de bien dire. Et dans son compte-rendu du séminaire au pire, que Nadine a cité, on a les mêmes sources, dans son compte-rendu du séminaire au pire, Lacan écrivait « L'analyse renverse le précepte de bien faire et laisser dire, au point que le bien dire satisfasse, comme avec un petit tiret. Renverser ce précepte proverbial, c'est réviser une certaine éthique du bien faire. Celui qui veut bien faire ne doit pas s'embarrasser du qu'en dira-t-on. J'ai trouvé une autre version de ce proverbe qui rime, qui dit bien faire et laisser brer. Donc en renversant le proverbe, on en arriverait à bien dire et laisser faire. C'est ce que Lacan n'a pas osé dire, bien qu'il le laisse sous-entendre, parce qu'il dit qu'il faut renverser le proverbe. Il se contente de souligner que le bien dire, c'est déjà assez, on pourrait s'en satisfaire. Alors profitons de cette occasion que nous offre Lacan en renversant l'énoncé d'un proverbe pour remarquer que le proverbe est un dit qui résume une coutume. Ce n'est donc pas sans rapport avec la morale. Tous les proverbes sont en fait des principes moraux. Quand on dit par exemple, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on fait de la morale. Il ne faut pas se vanter de quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé. Mais quand malicieusement Jean Cocteau inverse la formule, pour bien tuer un ours, vendez d'abord sa peau, il fait surgir une autre vérité. Une vérité qui contre la morale et qui peut avoir valeur de mot d'esprit. Il y a comme ça toute une liste de mots d'esprit qui sont des proverbes contrariés, c'est une mine. Quand on entend ça la première fois, ça fait de l'effet. C'est comme tout mot d'esprit, ça fait événement, c'est un dire. Il me semble que le bien-dire auquel se résume l'exigence éthique de la psychanalyse est de cet ordre. Il s'agit de renverser la morale. Il ne s'agit pas de s'efforcer de bien dire, il ne s'agit pas de dire au plus près ce qui se passe, de trouver les mots justes pour circonscrire le réel auquel on se cogne, les fameux mots pour le dire qui ont eu leur succès. Non, il s'agit de se risquer à dire des bêtises pour entendre d'où partent nos pensées. Spontanément, on concevrait que nos pensées fassent partie du principe de réalité, puisque c'est avec nos pensées que nous accédons au principe de réalité. Eh bien, il faut relire l'Entwurf et le chapitre 7 de la Trame de Deutung avec Lacan pour constater, ça pour moi c'était une petite découverte, j'avais pas vu ça comme ça, pour constater que selon Freud, nos pensées prennent leur point de départ du côté du fameux principe de plaisir, c'est-à-dire du côté de l'inconscient. Et ce n'est que secondairement qu'elles nous apparaissent pensées quand nous les articulons dans la parole. L'inconscient se révèle comme le lieu d'une pensée foisonnante. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est toujours dans, c'est dans le compte-rendu du séminaire d'éthique. L'inconscient se révèle comme le lieu d'une pensée foisonnante, mais qui n'a pas accès à la conscience parce qu'elle n'a pas de sens? C'est ce que nous révèle l'expérience analytique. En deçà de l'articulation consciente des mots qui organisent notre pensée, quand nous parlons, il y a une autre articulation qui obéit au principe de plaisir, où les signifiants s'associent les uns aux autres à seule fin d'une jouissance hors sens. Alors, il y a un paradoxe, parce que si c'est au nom du principe de plaisir que l'articulation des signifiants peut se faire en dehors du sens, alors ce principe de plaisir est aussi un principe de jouissance. Il me semble d'ailleurs que c'est à cette conclusion que Lacan nous conduit, tant avec son concept de la langue qu'avec la notion complexe de l'indire. En tout cas, l'éthique de la psychanalyse vise à ce que l'analysant s'approche de cet indire. On ne s'en approche pas en trouvant le bon interlocuteur parce qu'il n'y en a pas. C'est un dire soliloque. Et pourtant, l'interprétation analytique sait parfois y faire écho. Quand elle ponctue les mots qui portent, et les mots qui portent au-delà de leur sens, et qui ainsi encouragent le bien-dire de l'analysant. Si du côté de l'analysant, il y a le devoir de bien dire, comme condition pour s'y retrouver dans l'inconscient et pour mesurer sur soi les effets de la structure de langage, du côté de l'analyste, il s'agit de bien entendre, c'est-à-dire tout de travers. C'est ce que Lacan décrit en substance quand il évoque la classique attention flottante. Quand l'analysant émet une pensée, nous pouvons en avoir une tout autre. C'est un heureux hasard d'où jaillit un éclair. Et c'est justement là que peut se produire l'interprétation. À cause du fait que nous avons une attention flottante, nous nous apercevons, parce que nous le subissons, que ce qu'il a dit pouvait être entendu tout de travers. Et c'est justement en l'entendant tout de travers que nous lui permettons de s'apercevoir d'où émerge sa sémiotique à lui. Elle émerge de l'existence de la langue, en un seul mot, c'est-à-dire de cette sorte de parasite qui fait que ça pense à côté. Et c'est ce qui participe à ce que depuis Freud on considère comme savoir inconscient. Mais que quelque chose puisse se dire sans qu'on sache qui le dit, ni à qui ça se dit, c'est ce devant quoi la pensée se dérobe, comme disait Lacan. Et c'est à quoi répond la supposition du savoir inconscient. On croit à l'inconscient parce que la pensée se dérobe devant un savoir qui se manifeste dans le réel. Mais croire à l'inconscient, allons bon, j'ai perdu mon truc. Voilà. Ah ben, non. Problème technique. Non, non, ça va venir. Voilà, à la fin. Voilà. On croit à l'inconscient parce que la pensée se dérobe devant un savoir qui se manifeste dans le réel. Mais croire à l'inconscient ne résume pas ce que peut être une éthique pour la psychanalyse. Croire à l'inconscient est une condition nécessaire pour entreprendre une analyse, mais pour une éthique de la psychanalyse, ça n'est pas suffisant. Lacan évoque pour la psychanalyse une éthique qui se fonderait sur le refus d'être non dupe, sur la façon d'être toujours plus fortement dupe de cet inconscient qui est notre seul lot de savoir. Là, c'est dans les non-dupes. C'est un énoncé un peu compliqué. Mais vous aurez remarqué qu'il décrit une position décidée. Le refus d'être non-dupe qui, à mon avis, va plus loin que la simple croyance. Le béaba de l'éthique de la psychanalyse, c'est quand même qu'il faut avoir fait une psychanalyse pour occuper la fonction d'analyste. Ce qui implique d'avoir fait le parcours qui, de la croyance, va jusqu'au constat de la méprise du sujet supposé savoir. Comment celui qui en est arrivé là peut-il avoir l'idée d'occuper pour d'autres cette place qu'il sait être un pur semblant? Je crois que c'est une question éthique à laquelle chaque analyste devrait essayer de répondre.